bonjour à tous. Notre intervention se situe, comme l'a dit Roger Audin, à la croisée des sciences de la communication, mais aussi de l'anthropologie et de la psychanalyse. Elle s'appuie sur plusieurs enquêtes que nous avons réalisées ensemble avec Anne et séparément depuis 2004 sur les représentations et les usages du téléphone mobile. Et sur des enquêtes également qui ont été construites et conduites en collaboration avec Laurent Salat, qui reconnaîtra quelques-unes des idées que nous avons eues ensemble ces dernières années.
Alors, sur l'invitation qui nous a été faite est de présenter un des aspects sur lesquels on a travaillé, à savoir la question du SMS. Et donc, essayer de contribuer à la réflexion commune sur mobile et création à partir de ces. Short Messaging Service, donc SMS, autrement appelé texto en français. L'appellation est restée dans le domaine commun. Alors généralement, cité au rang des accusés dans le procès du mis à mal de la langue, le SMS constitue en fait un lieu d'observation particulièrement intéressant et riche de la créativité ordinaire, des formes de création ordinaire. Dans ce registre-là qu'on va situer notre intervention. Il participe en effet à une généralisation de l'écriture quotidienne, comme nous venons de le voir avec Enzo Ferraris, en offrant aux individus des ressources spécifiques que nous allons essayer d'analyser à partir d'un corpus de SMS constitué de façon expérimentale, d'observations situées et parfois d'observations filmées. Donc il y aura un film à un moment donné de la présentation. Alors, parmi les nombreuses pistes ouvertes par l'exploration des pratiques du SMS, nous n'allons en retenir que quelques-unes qui permettent de construire un regard, de soumettre ce regard à la discussion autour de cet objet particulièrement commun, banal, mais aussi précieux, institué quasiment dès son origine par un premier détournement d'usage en machine à écrire. Il s'agit évidemment du téléphone portable machine à écrire. On ne va pas dresser ici un inventaire des multiples procédés rhétoriques, poétiques, ou même graphiques repérables dans notre corpus. On va plutôt essayer de produire un angle de vue particulier en considérant le SMS comme une pratique d'écriture, c'est-à-dire évidemment comme donnant lieu à des formes écrites, mais surtout correspondant à un acte d'écrire. Et cette dimension performative de l'écriture, conduisant dans notre cas à analyser à la fois les gestes d'écrire et leurs effets sur les situations, de la pure gestuelle au véritable passage à l'acte, constituera donc le fil rouge de toute notre présentation. Alors, il s'échange aujourd'hui plus de 200 000 SMS par seconde dans le monde, chiffre qui s'ajoute à tous ceux qui ont été présentés tout à l'heure et qui invite à s'interroger évidemment sur le rôle du SMS dans une nouvelle ère, celle d'une écriture généralisée et banalisée. En 2005, Télérama faisait écho à notre première recherche collective avec cet article qui titrait « Ces fous parlants et leurs drôles de machines ». Parce qu'à l'époque, la rupture comportementale principale associée au téléphone portable, c'était effectivement le fait de parler seul dans la rue. Aujourd'hui, ce qui frappe l'observateur des espaces publics ou privés, c'est plutôt le nombre de personnes occupées à écrire et à lire, effectivement, en parlant, en marchant, en traversant la rue, ou simplement assis ou debout dans les transports en commun du métro. Alors je lance là, en même temps que je continue un film, réalisé réalisé cette année avec... réalisé en 2000 dans les lignes du RER et du métro parisien, 2000, n'importe quoi, cette année, pardon. Donc c'est un extrait d'un film, que j'ai réalisé cette année dans les transports en commun parisiens, pour lequel je vais mettre un peu de son, mais c'est pas grave, j'ai oublié de brancher le son, pour vous montrer et pour vous inviter à voir concrètement tous ces gestes correspondant aux pratiques de lecture et écriture dans les espaces communs. C'est en fait tant pis. De toute façon, je l'aurais mis très bas pour pouvoir quand même continuer à parler. Ce que donne à voir les images, ce qu'elles rendent particulièrement perceptibles, c'est qu'autour de l'écriture et de la lecture des SMS se joue une corpographie. C'est-à-dire que le téléphone organise une gestuelle particulière qui se généralise, une sorte de conformation des corps qui se donne à voir dans les transports en commun, dans les espaces communs que sont le métro et les situations de transport en général. et que cette généralisation de la gestuelle, une gestuelle qui est relativement récente en fait, est devenue complètement naturelle, s'est inscrite dans notre environnement sensible.
Les corps sont repliés, les dos voûtés, les visages se penchent, et on voit bien que les petits écrans de nos téléphones focalisent les attentions et créent des mouvements partagés. Ils sont parfois tenus d'une main, souvent des deux, frôlés par des doigts qui sont devenus agiles, rapides ou lents d'ailleurs. Et les pouces en particulier sont dotés de nouvelles formes de dextérité. Et ils semblent tout autant ponctuer les phrases en train de s'écrire qu'imprimer à même l'appareil le rythme de la pensée. Donc on observe une forme de continuité manuelle entre la rédaction à proprement parler, la lecture accompagnée par la main sur l'écran ou la simple commande, l'activation du téléphone. Et ces motifs gestuels, ces attitudes ont contaminé tous les lieux de la vie quotidienne, de la table de cuisine au salon, de la rue au bureau, des transports en commun aux espaces restreints. Et dans leur, on peut même observer quelque chose, c'est que dans leur découverte du monde, les tout-petits enfants cessaient aujourd'hui tout autant quand ils se saisissent des téléphones, ce qu'ils ont très envie de faire, de pianoter sur le téléphone que de placer le téléphone à l'oreille, pour dire la naturalisation de cette gestuelle. Et dans certains cas limites, les gestes liés à l'écriture tendent à devenir quasiment transparents, comme chez certains des adolescents qu'on a pu rencontrer, qui disent écrire comme ils parlent, écrire comme ils respirent, avec le risque d'ailleurs de ne jamais s'arrêter. D'autres, en revanche, vont décrire d'autres formes de souffrance ou de douleur liées à cette corpographie, donc une tendinite du pouce, par exemple, symptôme qui se généralise aujourd'hui, ou alors l'impossibilité de retrouver, quand on passe d'un téléphone à un autre, la fluidité de manipulation qui rendrait l'écriture quasiment transparente d'un point de vue gestuel. Alors, observer la manière dont les passants, par exemple, en ville, écrivent, permet aussi de voir comment, souvent, ils font fi des obstacles. Ils se préoccupent assez peu des frontières préétablies par le cadre urbain en particulier, et ils organisent de manière assez singulière les continuités et les discontinuités des situations qu'ils traversent. Parfois, ils prennent appui sur la plasticité de l'espace, enfin, sur la matérialité de l'espace, mais souvent, ils le contournent, ils le détournent. Et on peut reconnaître que l'écriture des SMS, qui est particulièrement plastique et souple, recouvre ou s'entremêle à tout un tas d'autres séquences d'activités. Elle peut être interrompue, différée, reprise, et s'inscrire dans des formes de situations très différentes. Alors, nous le voyons, avec les machines à écrire portables que sont devenues très rapidement les mobiles, l'écriture s'est fondue dans une gestuelle ordinaire, et l'activité d'écriture et de lecture est de moins en moins dédiée à des champs spécifiques, à des moments spécifiques, à des lieux spécifiques. Elle relève plutôt d'une forme de braconnage, on peut interpréter ça comme une forme de braconnage situationnel, qui est à la fois une conquête sur l'espace, sur le temps, sur l'autre parfois, mais cette conquête peut aussi ressembler à une véritable épreuve, et on renvoie à tout l'univers carcéral, ou du moins bureaucratique, évoqué par Maurizio Ferraris tout à l'heure. Une véritable épreuve, en effet, quand il faut absolument faire une réponse et que les conditions ne sont pas bonnes, la performance d'écrire ou de répondre devient particulièrement spectaculaire. La concomitance importante, fondamentale, nous on entre par cette question du geste, entre le geste d'écrire et d'autres activités se faisant en même temps, peut conduire à des formes de défis, comme ceux que décrit Shirley Turkle dans Alone Together, quand elle décrit ces jeunes Américains qui se lancent le défi d'écrire sans arrêter de se regarder. Et effectivement, c'est précisément cet échange oculaire, cette interaction visuelle, donc le plus valorisé des échanges, en Occident en tout cas, que peut interrompre l'écriture d'un SMS. C'est même l'écriture d'un SMS, pour être fluide et facile, dans pas mal de cas, quasiment transparente comme je l'indiquais tout à l'heure, nécessite quand même une certaine concentration. Et dans l'attitude de celui qui écrit un SMS, on lit une indisponibilité provisoire à l'autre. Là, je repère ceux que je sens provisoirement indisponibles en train d'écrire. Et au début du portable, ce qui est intéressant, c'est que ces outrages, entre guillemets, ce qui était vécu comme des outrages faits aux personnes en présence, dans les situations d'interaction directe, étaient vraiment associés à la parole. C'était répondre au téléphone quand on était au restaurant, etc., qui posait problème. Aujourd'hui, la parole offrait déjà à l'époque une ressource particulière qui était celle de la double, enfin, de la double destination liée, par exemple, à la, enfin, analysée à propos de la théâtralité. On peut parler à quelqu'un et parler au public en même temps. Il y a une certaine générosité de la parole, mais le SMS, il est discret, il est silencieux, et face à lui, enfin, il crée une posture de retrait, en quelque sorte, qui invite souvent l'interlocuteur direct à se demander en lui-même, mais que fait-il ? Qu'est-il en train de me faire ? Qu'es-tu en train de faire, Laurence ? Et c'est bien la question, en fait. Que fait-on en écrivant tous ces SMS ? Qu'est-ce qui se réalise avec tous ces gestes ? Que fabrique-t-on dans ces interstices et dans ces entremêlements d'activités ou superpositions d'activités ? Alors, évidemment, nous fabriquons de l'écriture, mais de l'écriture à peine considérée comme telle. Et ça va entrer en dialogue avec ce que Maurizio Ferraris vient de dire sur la documentation et sur l'enregistrement. C'est une écriture qui est désacralisée, qui est souvent minorée en tant qu'écriture, réduite à des formes d'inscription, effectivement. Et en tant qu'inscription, évidemment, elle est manipulée avec beaucoup de précautions, puisque les SMS peuvent servir de preuve. Quand on en a écrit ou reçu des compromettants, on peut avoir tendance à les effacer avant leur mort naturelle, avec la perte d'un appareil, par exemple. Et on fait l'hypothèse que c'est lié au caractère fondamentalement transversal de ces gestes d'écriture qui fragilisent, enfin qui donnent un statut particulier à ces formes écrites et qui concourent de toute façon à les distinguer de l'écriture au sens noble, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des formes d'écriture noble ou reconnues comme telles par le téléphone. En tout cas, l'écriture n'est pas prise comme une activité autonome. Et ces gestes scripturaux par le téléphone font l'objet de désignations particulières chez les gens dans nos interviews. Ils parlent plutôt de noter, d'inscrire, de prendre note, de faire un SMS. On fait un SMS plutôt qu'on écrit. On se parle par SMS. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment décrit ou vécu comme de l'écriture. Les gens disent aussi parfois capter plutôt qu'écrire. Et ils se rapprochent en ça d'autres usages de l'ordre de la captation liée au téléphone, tous ces usages instrumentaux de la photographie. Par exemple, photographier les horaires de piscine ou les références d'un livre cité dans un journal, dans lesquels on voit que dans cette dimension d'inscription de captation, le scriptural et l'iconique, ce qui relève de l'écrit, ce qui relève du texte, tendent plutôt à s'indifférencier dans l'usage. Et c'est prenant en sérieux cette pratique d'écriture qui est une pratique non dédiée, souvent peu considérée en tant que telle, on peut reconnaître que l'écriture des SMS s'inscrit dans tout un ensemble de pratiques ordinaires, de pratiques d'écriture qui vont du simple post-it collé sur le frigo à l'exploitation dans les téléphones même d'espaces qui rendent possible l'écriture mais qui ne sont pas faits pour, comme par exemple écrire dans son agenda des choses parfois très longues ou à l'intérieur de ses listes de contacts. Dans nos enquêtes, on a rencontré des personnes que le SMS avait par ce caractère désacralisé, conduit à l'écriture, de même qu'il avait conduit certains au film et à la photographie. Mais pour ceux qui écrivent beaucoup déjà, c'est-à-dire qui ont une pratique d'écriture en dehors des téléphones, des pratiques plus socialement constituées ou valorisées, comment comprendre la part prise par l'écriture des SMS au quotidien ? Et une chose qui nous apparaît très fort, c'est que ça a un rapport avec une forme de continuité de l'expérience. Écrire sur son portable plutôt qu'ailleurs, dans un carnet ou dans un ordinateur par exemple, c'est se donner l'illusion d'une centralité et par elle d'une continuité possible entre des idées, des pensées fragmentées. C'est croire qu'on pourrait retrouver ici ce qui se disperse à l'heure, alors même qu'on peut perdre beaucoup plus facilement son portable qu'autre chose. Et ça nous amène à formuler une autre chose, c'est que loin de contribuer à une fragmentation du temps ou même à une tyrannie de l'immédiateté qui a souvent été associée au téléphone portable, l'écriture du SMS en particulier s'inscrit plutôt dans une structuration active du temps et des activités par le biais de projets multiples échafaudés par petites touches, par fragments et qui vont s'intriquer comme des fils. Et c'est vrai qu'une des activités majeures réalisées au moyen des SMS en particulier relève effectivement de la coordination et de l'organisation. D'ailleurs, ça contribue sans doute au fait de minorer ce type d'écriture, tous ces échanges de coordination qui vont permettre, par le biais du SMS, d'inscrire et donc d'écrire et de rendre visible, de produire des traces sur tout un tas d'activités qui sont généralement dans l'invisibilité. Il s'agit, dans l'exemple que je montre, d'un cas un peu fort, mais très très courant, de l'activité domestique. Je fais les courses hier, c'est écrit et dit deux fois. Mais il ne faudrait pas croire que l'efficacité organisationnelle est toujours obtenue. Ça, c'est sûr, elle n'est pas toujours obtenue, mais surtout qu'elle est toujours recherchée. En fait, dans bien des cas, par le SMS, on se rend compte que ce n'est pas l'efficacité qui est recherchée, mais tout un tas d'autres choses. Parce que le SMS, c'est aussi le lieu de tous les malentendus. Et là, je fais référence à un travail en particulier auprès des adolescents, qui sont des très grands producteurs et récepteurs de SMS, et qui évoquent sans arrêt le fait qu'ils ne se sont pas compris, qui évoquent sans arrêt des incompréhensions et tous les déboires qui découlent des malentendus liés à la communication par les SMS. Et ils donnent une valeur assez positive à ces malentendus, puisque pour eux, c'est souvent l'occasion de mettre des grains de sable dans leurs relations et de créer des aventures potentielles. Alors, dans bien des cas, en fait, pas seulement pour les adolescents, l'écriture ne va pas véritablement servir l'efficacité de l'action, mais plutôt prendre le pas sur cette efficacité et se déployer dans une logique qui lui est propre, au détriment, bien souvent, de la situation elle-même.
Alors, c'est le cas de cet échange de SMS. Donc, deux amis se rendent à un mariage en train. Ça ressemble à une blague, ce que je vais vous raconter, c'en est presque une. Ils voyagent dans deux wagons séparés. Au moment de descendre, l'un d'eux a un doute et au lieu d'appeler son ami, donc, qui est dans l'autre wagon, lui envoie cette question « Ce n'est pas ici ». Le destinataire, désarçonné par la forme complexe de la question, à la fois négative et interrogative, on le comprend, répond un oui ambigu qui suscite ce deuxième SMS ludique qui s'offre le luxe d'un smiley alors que le train va repartir dans quelques instants. Et le train, d'ailleurs, repart sans que l'ami qui descend du train, une valise dans une main et le téléphone dans l'autre, ait la possibilité matérielle de dissiper le malentendu assez vite. Il écrit un « dû » qui est produit par un dérapage des doigts sur le clavier au moment où il descend du train, puis ainsi, mais trop tard, pour que le malentendu se dissipe. Alors ce smiley qui apparaît après le oui, non ou si, nous semble le signe, un des signes, qu'il se joue bien d'autre chose que l'efficacité, comme le disait Anne, dans l'écriture du SMS, ce geste qui se superpose à d'autres espaces de pratique ou d'action, qui s'infiltre dans les interstices et se produit par de subtils et de très communs entrelacements. Il s'y joue souvent quelque chose de plus, quelque chose en plus, dont la négation serait dommageable à la compréhension de cette pratique, et qui est pour nous une forme d'apport aux situations vécues, quelque chose qui augmente les situations et qui leur confère comme un double fond. Ok, moi, je vais faire les courses, super. Ce qu'offre ce SMS, ce n'est pas le seul récit d'une activité à venir, mais la possibilité d'une modélisation du réel, par le truchement de l'antiphrase, super, qui permet par l'écriture de se décoller du faire, un peu laborieux, aller au supermarché, et de devenir l'auteur de son action. Alors ce SMS très ordinaire, qui nous est très familier à tous, je pense, peut être lu, d'après nous, comme une façon à la lettre de reprendre la main sur sa vie au moment où on l'éprouve comme aliénante ou aliénée, que l'on peut encore décrire comme une façon d'exercer ce que Goffman a thématisé comme une distance au rôle. Alors on imagine aisément, en lisant ce SMS, que ce super aurait pu être absent de ce message. Et nous avons en effet collecté dans nos enquêtes beaucoup de SMS qui ne se saisissent pas de cette possibilité ordinaire d'infléchir par les mots un moment vécu, mais qui reste strictement organisationnel. Mais dans notre tentative de décrire le SMS en tant que geste d'écriture inscrit dans une situation, il nous apparaît que le SMS est, dans tous les cas, un de ces moments d'individuation privilégiés qui se présente toujours à minima comme un retranchement ou encore comme un de ces simples actes d'écartement qui définissaient de façon minimale l'individu pour Georges Simondon. L'écriture d'un SMS, pour nous, appartient à l'ensemble de ces façons banales d'éprouver son individualité par des gestes, comme on ferme une porte, comme on fait un pas de côté, comme on ouvre un livre, comme on détourne le regard, ou encore donc comme on prend son téléphone pour écrire, autant de façons de réajuster par de simples gestes devenus très ordinaires sa distance avec son environnement, autant de façons de jouer des seuils pour définir le temps d'un moment d'être, comme dit Simondon, un site à soi. Et alors dans ce site à soi, il peut se jouer beaucoup d'attitudes très différentes et parfois contraires, qu'il est très tentant d'uniformiser pour leur donner un sens psychologique global, comme le fait Shirley Turkle, entre autres sociologue ou anthropologue ou psychologue. Et donc Shirley Turkle donne à ce moment d'individuation, elle l'interprète de façon très univoque, comme une fuite de la solitude. On écrit des SMS pour fuir la solitude. Et pour nous, ce moment, ce site, ce moment d'individuation donne lieu à des usages beaucoup plus divers. On peut fuir la solitude, mais aussi à l'inverse, fuir les autres environnants en écrivant un SMS. On peut chercher à se retrouver soi ou alors retrouver un autre, ce qui semble l'évidence. On peut jouer avec les mots ou faire un usage strictement utilitaire de la langue. Alors pour nous, ce moment d'individuation, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui dans ce rapport à la création, c'est qui peut donner lieu à des façons d'expérimenter des manières d'être ou d'adopter et d'activer un certain angle de vue sur une situation que l'on vit et de modéliser l'expérience vécue, comme on l'a vu, par ce super, donc par l'antiphrase, par l'humour, par l'ironie, par la poésie, par beaucoup de ressources rhétoriques qui sont autant de manières de ressaisie symbolique de soi, pour reprendre une formule que Marielle Massé applique à l'écriture. Donc Marielle Massé, dans son ouvrage qui nous a beaucoup inspiré, Façon de lire, manière d'être, entreprend à travers son analyse de la lecture comme activité de décrire comment s'élaborent au quotidien des formes de vie. Et c'est bien de cela que relève pour nous le SMS, qui, nous semble-t-il, à côté d'une identité narrative telle que la décrit Tricker, qui fait du récit la forme matricielle, en quelque sorte, de l'expérience identitaire, il nous semble que les pratiques du SMS nous invitent à considérer quelque chose comme une identité stylistique, c'est-à-dire à prendre en compte le style, au sens large de l'élaboration d'une forme, comme un autre type de facture de l'identité. Donc, pour nous, l'écriture dans SMS participe d'une stylisation ordinaire de l'existence, dans la mesure où l'individu peut y expérimenter, même fugacement, une forme de stabilisation de soi dans un état ou une posture en lien avec une situation et un destinataire, et qui va trouver forme dans la langue. Alors, cette stylisation s'opère selon nous, selon au moins trois modes qui sont spécifiques au SMS. D'abord, l'écriture ou l'envoi d'un SMS ont la particularité de transformer une situation en un contexte. Le SMS, son écriture, sa réception, sa lecture vont forcément, presque automatiquement, mettre en relation un texte avec un moment vécu, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on joue avec ce moment de réception, ou alors qu'on soit simple récepteur et qu'on soit saisi par les effets de télescopage, de contraste, où le texte vient rehausser la situation, ou alors au contraire, la situation vient rehausser le texte. Alors, deuxième façon de stylisation d'existence propre au SMS, c'est ce rythme singulier imprimé au déroulement du temps. La pratique du SMS, encore une fois, nous conduit à sortir de ce paradigme narratif, de l'identité narrative, l'identité aurait, d'après Ricoeur, une façon privilégiée de se dire à travers le récit. Mais il nous semble que le rythme est aussi ce qui fonde une individuation stylistique. Tant la modulation rythmique de nos gestes, la rythmicité de nos pratiques, constitue notre manière d'être. Or, le portable, comme machine à écrire et à lire, à recevoir des SMS, tient véritablement, selon nous, de la boîte à rythme. Je pense ici au surgissement inattendu ou inopiné du SMS, des SMS. À sa lecture qui peut se jouer en deux temps, d'abord furtif, puis plus attentif, mais aussi au tempo de l'effet immédiat que procure l'écriture, et puis surtout à celui du retour des faits que constitue la réponse. On peut considérer que véritablement écrire un SMS, c'est parfois lancer une forme de rythmicité dans l'attente de la réponse et la poursuite éventuelle du dialogue, répondre du tac au tac ou laisser passer du temps entre les réponses. Alors, autre aspect décisif de cette stylisation de l'existence propre au SMS, il ne faut absolument pas l'oublier, c'est qu'on cherche à se tenir à deux dans une posture qui est forgée par l'écriture. Donc c'est une posture stylistique prévue pour deux, où on s'essaye on expérimente donc une posture à deux à même la langue. Alors je ne commenterai pas plus avant cet exemple à la fois énigmatique et puis dont on devine la teneur. Alors on peut dire de cette posture stylistique prévue pour deux qu'elle se caractérise majoritairement par la recherche d'une forme pour rendre les choses désirables ou supportables pour soi et pour l'autre. C'est le cas de ce SMS envoyé par une mère inquiète à son fils qui a fait un trajet en voiture sous la neige, qui lui écrit pardon, comment va la Picasso sur la neige, la Picasso étant le nom de la voiture. Donc on sent bien la recherche de cette forme pour être non intrusive, pour jouer de son inquiétude, la contrôler et ne pas l'imposer au fils qui d'ailleurs un jour plus tard, donc qui laisse sa mère dans l'inquiétude 24 heures, répond en s'appuyant sur la question. Alors si le SMS prévoit une place pour l'autre, il faut aussi faire un cas de ces messages envoyés à la même personne qui reste sans réponse, ou alors au SMS non envoyé, ou encore au SMS à soi-même, dont nous avons trouvé des manifestations nombreuses dans nos derniers terrains d'enquête. De plus en plus, les personnes que nous rencontrons, nos interviewés, s'écrivent des SMS à eux-mêmes. Et pour nous, cette pratique témoigne du fait que le téléphone mobile entre dans un rapport actif à soi-même et témoigne d'une valeur plus générale aujourd'hui prêtée au téléphone mobile qui est vécu aujourd'hui comme un véritable prolongement actif de l'intériorité, comme un de ces champs d'exercice privilégiés. Pour nous, c'est véritablement une mutation dans les représentations de l'objet. Nous avons observé, puisque ça fait 6 ans que nous faisons des enquêtes sur cet objet, qui d'abord était conçu plutôt comme un objet par excellence relationnel. Or aujourd'hui, les gens parlent du téléphone portable en référence à leur fonctionnement mental, comme s'il y avait une contiguïté naturelle entre les deux, comme si le téléphone mobile était aujourd'hui doté d'une propension toute particulière à signifier la vie intérieure. Et c'est très patent également au cinéma, mais je ne vais pas m'y arrêter ici. L'un des signes d'ailleurs de ce changement de régime de l'objet téléphone mobile, c'est qu'il a aujourd'hui très couramment droit de cité dans les cabinets de consultation de psychologues ou de psychanalystes. Puisque nous avons réalisé un terrain donc en interrogeant des thérapeutes de toutes sortes, et de cette manière il produit, selon certains des analystes que j'ai pu interroger, une modification du cadre analytique d'une ampleur inédite depuis l'histoire de la cure analytique, depuis ses débuts, puisqu'aujourd'hui donc les patients viennent portables à la main, soit pour lire ce qu'ils ont écrit, soit pour montrer des SMS, les données à interpréter, ou proposer eux-mêmes une interprétation devant leur analyste. Alors, on apporte à son thérapeute les SMS qu'on a écrits ou qu'on a reçus, comme on apporte ses rêves, notamment parce qu'ils représentent parfois, et tout particulièrement dans les relations amoureuses, des façons d'acter ce qui pourrait ou aurait pu rester de l'ordre du fantasme, et qui, en réalité, on arrive à déborder le fantasme pour trouver à s'inscrire dans le SMS. Et en ce sens, il constitue un type d'espace au fonctionnement comparable aux espaces transitionnels de Winnicott, qui, je cite Winnicott, ne sont pas la réalité psychique interne qui est en dehors de l'individu, mais qui n'appartient pas non plus au monde extérieur. Donc de certains SMS qui sont au bord du fantasme ou parfois le débordent, on peut dire pareillement qu'ils ne sont pas tout à fait au-dedans, mais qu'ils ne se situent pas non plus totalement au-dehors. Donc le SMS apparaît dans certains cas comme une ressource dont on dispose pour faire au lieu de simplement penser, désirer, fantasmer. Et l'acte d'écrire devient alors un passage à l'acte. Cette indétermination statutaire entre le dehors et le dedans, le pour soi et le pour l'autre, explique selon nous l'effet de désinhibition qui est procuré par cette écriture et par cet espace pas tout à fait arraché à l'intériorité. L'espace du SMS en effet est un espace de partage, de mise en partage, mais dans lequel on peut plus facilement que dans d'autres se soustraire à l'interaction. Je pense à tous ces SMS auxquels on n'est pas tenu de répondre. On peut ne pas répondre, on peut rester elliptique et d'une certaine façon, on n'engage jamais sa pleine responsabilité dans l'écriture d'un SMS.
Et, cette indétermination statutaire entre le dehors et le dedans, qui nous paraît vraiment caractéristique de l'écriture des SMS, explique aussi sans doute la place qu'occupent les lapsus et les innombrables actes manqués liés à l'écriture du SMS, dans ces échanges écrits dans lesquels le geste d'envoi tient le plus souvent lieu de point final. Merci.